œil. Dans cette édition, on entendra Edouard Fritsch sur la vie chère. Cette question posée au niveau national, les maires vont-ils faire 7 ans au lieu de 6? Et enfin, ce marché des matières premières pour terminer. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Edouard Fritsch est très remonté contre le colloque sur la vie chère.
Oui, le président du Tapoura était l'invité de la rédaction hier et vous l'avez entendu dénoncer l'abandon du projet du centre culturel de Paofei. Il s'est aussi inquiété pour l'avenir d'Athènes, mais a surtout réagi au colloque sur la vie chère organisé à la mi-mars à l'Assemblée. Le chef de file de l'opposition autonomiste n'y a pas participé, tout simplement parce qu'il ne veut pas contribuer à la division du pays. L'entendre, ce colloque n'a pas été programmé pour résoudre quoi que ce soit, mais simplement pour attaquer Moetei Broversen sur ses compétences. Nous sommes dans une guerre entre l'Assemblée et le gouvernement, voilà l'explication d'Edouard Fritsch. Et Anthony Géraud serait prêt à tout dans cette guerre, y compris s'appuyer sur des avis qu'il dénonce lui-même. Écoutez.
Dès le début du colloque, nous avions les solutions au problème. Ces solutions au problème que présentait le président de l'Assemblée de Polynésie française sont des solutions proposées par, effectivement, des ménages, des matières grises, qui ne sont pas des matières grises du pays, sont des matières grises des mauvais Français, hein, lesquels sont agressés lors de la dernière réunion du Tavni, du congrès du Tavni. On a parlé, effectivement, de ces mauvaises idées. À quoi on joue? La vie chère, nous savons comment faire. Nous avons une direction des affaires économiques, nous avons des experts à l'Université de Polynésie française, ils peuvent nous conseiller sur les moyens à mettre en place pour lui. Mais ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est du cinéma.
Ces mesures qui sortent de ce colloque, Anthony Géraud a bien l'intention de les faire appliquer via le gouvernement, mais aussi via des propositions de loi à l'Assemblée pour réformer le code de la concurrence. Et bien ces mesures pour Edouard Fritsch, elles s'inscrivent toutes dans la même logique.
Pour que les prix baissent dans notre pays, il faut agresser le patronat. Il faut agresser ceux qui créent des emplois. Il faut agresser ceux qui créent de la croissance dans ce pays. Enfin, je pense qu'on a changé de siècle aujourd'hui. C'est l'inverse qui doit se faire. Il faut faire confiance à ceux qui crée de l'emploi dans notre pays. Parce que ce n'est pas l'administration, ce n'est pas les communes qui créent de l'emploi, ce n'est pas l'argent public qui crée de l'emploi. Au contraire, nous sommes en train de souquer de ce côté-là parce qu'il ne faut pas faire de dépenses inutiles. Donc, faisons leur confiance et je pense qu'il ne faut pas, effectivement, tuer la poule aux œufs d'or.
Voilà la poule aux œufs d'or, à savoir les entreprises que l'ancien président du pays appelle à préserver et à mettre autour de la table sur ce sujet de la vie chère où il estime que c'est sur la fiscalité et notamment les taux de TVA qu'il faut jouer mais aussi sur la préparation du pays à une nouvelle crise mondiale. Car si Edouard Fritsch n'a pas toujours partagé, comme il le dit, les vues du MEDEF, il semble rejoindre Steve Amblin dans ses craintes. La guerre commerciale lancée par Donald Trump risque bien d'avoir un impact sur le tourisme mondial et donc sur le moteur de l'économie polynésienne. Moetei Broversen, conscient des remous mondiaux, avait appelé à ne pas être catastrophiste. Le président du Tapoura, lui, estime qu'il faut se tenir prêt.
Je pense qu'il faut se préparer et je pense qu'il faut s'appuyer sur des professionnels pour le faire. Nous avons ces professionnels ici, les gens du MEDEF, la CPME, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup à l'économie du pays, qui ont mis en place les moyens pour faire fleurir cette économie en Polynésie française. Je pense qu'eux peuvent nous accompagner et ils peuvent en tous les cas dès aujourd'hui nous donner quelques issues, quelques solutions à ces problèmes.
Voilà, toute l'interview d'Edouard Fritsch est à retrouver sur notre page Facebook et notre site radio1.pf.
Cette question, à présent, les maires vont-ils faire 7 ans de mandat au lieu de 6?
Une question posée par Ouest France qui a appris que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau cherche des solutions pour éviter un télescopage d'élections. Les municipales vont avoir lieu en 2026, vous le savez, et les suivantes, ce sera donc en 2032. Mais en 2032, il y aura aussi la présidentielle et donc éventuellement les législatives. Un nouveau président de la République ou une d'ailleurs pourrait effectivement décider de dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir sa propre majorité. Alors 3 élections dans la même année, c'est un peu beaucoup. Pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, cité par Ouest France, cette question de la percussion entre les élections de 2032 se pose. Alors quelle solution? Eh bien repousser les municipales de plusieurs mois pour qu'elles aient lieu plutôt à la fin de l'année 2032 ou bien les repousser carrément d'une année à 2033. La question n'a pas été tranchée, a précisé le ministre à Ouest France.
Un nouveau dispositif pour un hébergement d'urgence des sans-abri.
Ça s'appelle les télé-house et elles seront au officiellement inauguré lundi prochain. Ce sont des conteneurs aménagés et installés à côté de l'accueil de Tevayeté à Mamao. 12 personnes sans domicile fixe y sont actuellement hébergées. Elles suivent également une formation au restaurant solidaire L'Éphémère. Ce dispositif des Tere House permet d'assurer un hébergement temporaire aux SDF engagés dans un parcours de réinsertion et de formation.
Justice maintenant avec cette deuxième session d'assises qui s'est ouverte ce matin.
Et c'est avec un procès pour viol incestueux sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant et atteinte sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans que cette session a commencé. Le prévenu, âgé de 70 ans, est accusé d'avoir entre 2005 et 2022 abusé de sa fille, de sa petite-fille et de la sœur de sa belle-fille. La matinée a été consacrée à écouter l'accusé relater son enfance et son parcours de vie, puis à entendre le témoignage de son fils et de sa belle-fille et les parents de la petite-fille de l'accusé. Le couple a assuré que le prévenu était très porté sur le sexe, ne parlant que de ça et fréquentant jusqu'à 3 femmes en même temps. L'accusé sera entendu sur les faits demain matin. Le procès se déroulera sur 3 jours et le septuagénaire encourt 20 années de réclusion criminelle.
Bientôt une centrale d'achat pour les matières premières de l'artisanat.
Dont le premier marché aura lieu du 24 au 26 avril dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Une première édition donc pour cet événement entièrement dédié aux matières premières de l'artisanat. Peoré, nacre, la fibre de puro, le coco, le bois, l'eau, on devrait trouver beaucoup de choses. Alors pourquoi organiser ce marché? Le secteur fait face à des tensions sur l'approvisionnement. On a parlé de pénurie, mais c'est surtout finalement le prix de vente de ces matières qui pose problème et notamment le gap entre sa vente dans les îles et sa vente à Papeete, comme l'explique la ministre Nahima Temari.
En fait, quand on creuse, on se rend compte que les producteurs de ces matières premières ne se retrouvent pas dans le prix final de vente. Le pipita peore, il part des Tuha'ape, il est entre 2500 francs et 3500 francs, ça dépend bien évidemment de la quantité, etc. Une fois qu'il arrive sur Papeete, il peut vite monter à 8000, 9000, 10000 francs. Et donc aujourd'hui, on a des artisans slash agriculteurs et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne s'y retrouvent pas effectivement dans le prix total de vente alors que le gros du travail vient de l'agriculture, de celui qui va planter, entretenir, récolter, préparer cette matière première.
Le service de l'artisanat a donc lancé une étude sur la création d'une centrale d'achat pour que l'offre et la demande se rencontrent de manière structurée. Et puis cet événement du marché des matières premières au musée de Tahiti et des îles sera aussi l'occasion de créer ou de renforcer des réseaux de vente et d'achat, d'explorer des matières moins connues ou laisser de côté. 3 jours dédiés aux matières et les enjeux de leur culture et préparation pour les professionnels donc, mais aussi le grand public. On écoute la chef du service de l'artisanat traditionnel, Vaiana Giraud.
On a plusieurs espaces dans ce marché, donc bien sûr un espace exposition-vente de matières premières avec les artisans, mais aussi des espaces de sensibilisation autour des matières elles-mêmes, des enjeux de préservation, de reforestation, etc. On aura des mini-conférences, des démonstrations et des ateliers, et également des jeux grand public avec des lots à gagner. Et en partenariat avec le musée Tahiti et des îles, les visiteurs auront aussi la chance de pouvoir accéder à des visites guidées thématiques. Et en fait, on redécouvrira certains objets par le prisme des matières qui les composent.
Et pour mieux sensibiliser les plus jeunes, le service de l'artisanat a développé un jeu de société qu'on pourra découvrir lors de cet événement et des mallettes pédagogiques qui seront bientôt envoyées dans 10 établissements scolaires. Le marché des matières premières, ce sera donc du 24 au 26 avril prochain.
On parle du Paul Gauguin maintenant qui s'est refait une beauté.
Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu depuis février à Papeete. On vous l'avait dit dans nos journaux, le bateau de croisière de la compagnie du Ponant a fait 7 semaines d'escale à Singapour pour un grand carénage et même une rénovation. Il vient de sortir des chantiers avec des nouvelles lignes rouges et bleu marine plutôt que le bleu ciel auquel on était habitué. Le relooking est aussi passé par l'espace piscine, les decks, le bar, les moquettes et tapisseries. 4 nouvelles cabines ont aussi été ouvertes à bord. L'heure du retour au Fénois donc, eh bien oui, mais avec quelques détours. D'abord par l'Indonésie, la croisière est en cours, puis un circuit mélanésien qui doit commencer dans quelques jours au Vanuatu, direction sud Fidji, Tonga et les Cook, toujours avec des voyageurs à bord avant de reprendre les parcours interîles en Polynésie. Ce sera à partir de la mi-mai.
Et on termine ce journal avec cette nouvelle. 2 nouveaux sites ont été classés monuments historiques.
Oui, l'annonce a été faite ce matin en conseil des ministres. L'ancienne Romerie d'Atimaono et le premier cimetière chinois de Mataya vont intégrer la liste des sites à préserver. Voilà longtemps que des historiens, des associations culturelles et plus récemment des professionnels du Rhum demandaient aux autorités de mettre en valeur ce patrimoine important dans l'histoire coloniale du Fénois. La Romerie sur le domaine de Teva à Atimaono est une impressionnante friche qui a été avalé par la forêt et un des rares outils industriels du 19e siècle, toujours visible en Polynésie. La structure est bien conservée, les inscriptions sur certaines machines d'époque sont bien visibles. Elle était alimentée par de grandes plantations de canne à sucre où ont travaillé les premières générations d'immigrés asiatiques, souvent oubliées dans les grands récits historiques comme le note le gouvernement. Et le cimetière chinois de Mataya, lui aussi pris dans une importante végétation, est lui le premier lieu de sépulture connu de cette communauté devenue si importante dans le pays. Le classement monument historique permettra de protéger officiellement ces sites, mais aussi d'engager des projets de musées ou d'écomusées à visée pédagogique ou touristique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les informations. Maintenant, c'est la météo sur Radio.